السلام عليكم قطر.
بسم الله الرحمن الرحيم.
راديو فوت انترناسيونال
من قطر.
اني غاسني.
Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International dans notre édition unique qui réunit tous les résultats du jour. Et donc, ces résultats donnent Argentine-Australie et France-Pologne pour ce qui est des huitièmes de finale déterminés aujourd'hui. Une soirée fertile. L'Argentine est sauvée. Avec une certaine efficacité, les Argentins ont battu les Polonais. Lionel Messi et ses camarades continuent et joueront donc leur huitième de finale contre les Socceros. La Pologne, en dépit de sa défaite, est deuxième du groupe C et elle jouera donc son huitième de finale en retrouvant les Bleus. France et Australie qualifiées dans le groupe D malgré donc une défaite de l'équipe de France battue par les Aigles de Carthage au terme d'un cafouillage arbitral sur lequel on reviendra. Mais bravo aux vaillants Tunisiens et aux buteurs Wahbi Khazri. Les Kangourous ont eux vaincu le Danemark. Demain est un autre jour et plusieurs équipes tremblent déjà. L'Allemagne et la Belgique, notamment deux grandes nations européennes exposées à l'élimination. La Mannschaft jouera sa place contre les Ticos du Costa Rica, alors que la Belgique sera confrontée à la Croatie, ce qui permettra peut-être au Maroc de terminer premier de son groupe. C'est de tous ces matchs, de tous ces résultats, de tous ces joueurs, nous allons en parler avec nos invités, nos visiteurs du soir. Bonsoir Naïm Moniol.
Salut Annie, salut à tous.
Merci d'être là aux côtés de David Lortolari. Bonsoir David.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Est-ce que vous tremblez?
Il faut gagner ce match-là, parce que sinon c'est pas la peine de s'engager en Coupe du Monde.
Ah, très bien. Sentencieux, David Lortolari, malgré l'heure tardive. Bonsoir Jean-Philippe Bouchard.
Quelle soirée. Ouais. Bonsoir Annie, bonsoir.
Il s'en est passé des choses, surtout, mais des points communs d'ailleurs, on va y revenir. David Finzel est là, bien sûr, pour m'aider à préparer l'émission et Laurent Salerno est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
Romero se encierra, Molina, pelota para Molina, abierto está Di María, va para el Fideo, pasa Molina por la derecha, domina Di María, quedó para Molina otra vez, tira centro, ¡oh, Álvarez, gol! ¡Macalister! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino, argentino, argentino, argentino! ¡Sí, hasta el alma, argentino!
Et l'Argentine et Lionel Messi poursuivent l'aventure mondiale. Une équipe hyper motivée qui a donc décroché sa qualification. En huitième de finale, victoire 2-0 sur la Pologne. Un groupe polonais qui n'avait jusqu'alors encaissé aucun but. Et d'ailleurs, le pénalty accordé à Lionel Messi, on y reviendra sur ce pénalty ultra généreux, il a été arrêté par le gardien Szczęsny. En tout cas, on imagine facilement une immense joie ou un immense soulagement du côté de Buenos Aires où l'on se dirige tout de suite et où nous attend notre ami Carlos Bianchi. Hola Carlos.
Bonsoir Annie, bonsoir à la table.
Salut Carlos.
Content de vous retrouver.
Ben nous aussi, on est heureux de vous entendre, surtout heureux de vous entendre après la qualification de l'Argentine. Est-ce que vous avez douté, Carlos?
Non, je ne crois pas parce que la hiérarchie, il faut la respecter. Je pense que l'Argentine, elle était la meilleure équipe sur le papier et à la fin sur le terrain aussi. Et il a eu un faux pas contre l'Arabie Saoudite, qu'il a fait le match de sa vie. Mais après, l'Argentine, elle a mérité gagner les deux matchs qu'il a joués.
Qu'est-ce qui vous donne des certitudes face à cette équipe d'Argentine, en dehors de Lionel Messi, Carlos?
C'est une équipe qui est convaincue de ce qu'elle fait. Je ne sais pas si c'est une très bonne équipe. Je ne l'ai pas vu jouer beaucoup. Mais c'est une équipe qui a des joueurs qui veulent le ballon, que ça c'est très important déjà, qu'ils veulent jouer, qui essayent de jouer à l'attaque, ils ne pensent pas tellement à défendre. Et, en somme, à la fin, elle a mérité la qualification. Je pense qu'une équipe qui pense à gagner a plus de possibilités. Aujourd'hui, on a vu le match contre la Pologne. La Pologne, il a joué à voir s'il pouvait tenir 90 minutes le 0-0.
Oui.
Et ça c'est pas du football. Et heureusement qu'il a eu la chance qu'au goal average, il s'est qualifié.
Mmh. Est-ce que selon vous, Lionel Scaloni a trouvé son 11 ou pas encore?
Moi, je crois que l'équipe qu'il a démarré, je crois que ça va être le même, je pense que ça va être le même qui va démarrer contre l'Australie. Parce qu'il a fait un bon match, il a commencé à changer les joueurs après avoir marqué le premier but. Et l'équipe, elle a bien joué, même contre une équipe, je vous dis la vérité, c'est une des plus faibles sélections de Pologne que j'ai vues en ma vie. Franchement, ils ont joué à rien derrière, en attendant qu'ils passent les minutes.
Naïm Moniol, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette Argentine ce soir.
J'ai pensé que ça a été l'équipe... Le problème, comme l'a dit Carlo, c'est comme on l'a vu, la Pologne n'a rien fait, la Pologne a joué derrière, donc c'est compliqué de...
Elle était qualifiée avec un match nul, alors
oui, voilà,
évidemment...
Oui, voilà, c'est ça, donc c'est compliqué de savoir ce que vaut réellement cette Argentine. Moi,
elle n'avait pas Milik.
J'ai tendance à penser que l'entrée d'Enzo Fernandez dans l'équipe fait beaucoup de bien, parce qu'il y a un vrai ratisseur de ballon, parce que ça permet à McAllister d'être plus haut, parce que ça permet à des garçons comme Messi, comme Di Maria, de toucher beaucoup plus le ballon. Je pense que c'est la meilleure Argentine que j'ai vue depuis le début de la compétition. Défensivement, je reste sur ma faim, parce que comme la Pologne n'a pas attaqué, je ne sais pas ce que ça vaut. Je ne sais pas ce que Romero vaut réellement dans l'axe. Il m'a déçu sur le premier match. Molina est revenu à droite. Qu'est-ce que ça vaut s'il a un ailier qui est rapide? Je ne sais pas. Mais on va dire que cette Argentine a fait le travail qu'elle devait faire. Bravo à elle. Je pense qu'offensivement, elle a les moyens d'aller loin dans la compétition. J'ai un point d'interrogation sur ce qu'elle vaut derrière face à un vrai adversaire.
Jean-Philippe Bouchard.
Oui, on voit qu'elle monte quand même en cohésion, en puissance un petit peu quand même. Ça coulisse de mieux en mieux. Le petit jeu est extrêmement efficace quand même. Hein. Les jeux à trois, les passes redoublées, ils font ça très bien. On sent qu'ils commencent à bien se trouver. Que Messi monte aussi en puissance. Il a été extrêmement présent. L'adversaire défend toujours à deux sur lui, donc forcément ça laisse de la place. Par exemple pour McAllister, on l'a vu aujourd'hui. Donc là, c'est plutôt effectivement une pente ascendante pour l'Argentine. Après, c'est vrai, il reste l'interrogation de la défense où là, effectivement, on n'a absolument pas pu juger aujourd'hui. Parce que
Romero, qui était aligné dans le premier match contre l'Arabie Saoudite, est sorti au deuxième match. Tagliafico, qui était arrière-gauche, est sorti maintenant, c'est Acuña. Mais comme l'Argentine a quand même vraiment dominé le Mexique et encore plus la Pologne, moi, défensivement, je suis incapable de vous dire comment cette équipe va se comporter quand il y aura un vrai gros point de fixation dans la surface, quand il y aura des ailiers extrêmement rapides comme on peut avoir Mbappé, parce que si d'aventure, on peut la retrouver un peu plus loin. Donc voilà, la défense, on ne sait pas. On n'a pas d'interrogation, mais c'est vrai que dans le contenu, le 4-3-3 avec Enzo Fernandez et Julian Alvarez, ça a de la gueule.
Carlos, qu'est-ce que vous pensez, vous, de la défense argentine? Est-ce que c'est son point faible?
Je ne sais pas. Franchement, ça dépend des attaquants de les autres équipes. Hein. La question est là, ça dépend. Il n'y a pas de grands pays, de grandes sélections qui sont des très grands attaquants, sauf le Brésil, la France. Et après, les Anglais sont les Anglais, on les connaît très bien, mais ils ne font pas grand-chose depuis 1966. Alors je pense que l'Argentine peut être pas une très forte défensivement, mais je ne sais pas si les autres ils sont des attaques pour les mettre en danger.
Oui, mais d'ailleurs, on se demandera. David Lortolari.
C'est un groupe extrêmement paradoxal, hein, Annie. Les Saoudiens ont pris 3 points contre l'Argentine et derrière, plus du tout.
Mm-hmm. Alors ils ont perdu leurs 2 autres matchs.
On n'a pas trouvé un Mexique dans ses hautes eaux. J'ai souvenir de Mexique meilleur que ça dans des Coupes du Monde passées, bien sûr. La Pologne m'effare. C'est faible, il n'y a pas de production de jeu, Lewandowski ne peut rien faire. C'est le pire poste de l'équipe en fait, il n'a pas d'influence sur l'équipe du tout. Et donc, ce que disent les compatriotes et les confrères ici, je suis d'accord, on ne sait pas sur l'Argentine aujourd'hui parce qu'il y a eu cette défaite inaugurale, il y a eu une réaction, peut-être Carlos pourrait nous éclairer là-dessus, est-ce, quand on rencontre le Mexique et qu'on est l'Argentine, une motivation qui fait que vous n'avez même pas forcément besoin d'être brillant, mais vous avez cette motivation...
Un choc régional, oui.
Oui, latino-américaine, disons peut-être. Et derrière, contre la Pologne, c'est mieux. Mais encore une fois, moi je suis effaré par le niveau de la Pologne dans cette Coupe du Monde. On n'est pas surpris, mais c'est quand même désespérant. Et donc on arrive là en huitième de finale avec assez peu de certitude, me semble-t-il, pour ce qui est des Argentins.
Vous aussi, vous manquez de certitude, Carlos ?
La question, c'est que le match est contre le Mexique. Le Mexique, il a pensé plus à ne pas perdre le match qu'à essayer de le gagner. Il a pensé qu'à défendre. C'est là le problème. Déjà, je pense que le Mexique, il était parti déjà à moitié battu dans sa tête. Ouais. Il savait que s'il jouait d'égal-égal, peut-être qu'il n'aurait pas pu...
Donc on craint l'Argentine, Carlos. Voilà, les équipes adverses positif. Craignent l'Argentine, alors, et Carlos, c'est bien ça.
Quand tu as Messi, tu le crains, forcément. Comment ? Quand il y a Messi, tu le crains, forcément.
David disait, on craint d'une façon générale les équipes argentines. L'équipe argentine.
Et l'Argentine, il a une réputation, disons, assez bonne. C'est comme, personne n'y veut jouer contre la France. Hein.
Oui, c'est sûr. Mais c'est mine de rien.
Écoutez, moi, je dis la vérité. Quand on voit le tableau des huitièmes de finale et des quarts de finale, je pense qu'on va se retrouver le mardi 13 décembre à 16h, France-Argentine.
C'est bien possible.
Et oui.
Maintenant que le groupe est terminé, qu'on a vu les trois matchs, l'Argentine, on l'a vu, réellement en difficulté défensive, 20 minutes contre l'Arabie Saoudite, elle a pris deux pions. La première mi-temps contre l'Arabie Saoudite, elle a dominé largement, elle a eu un gros trou d'air contre l'Arabie Saoudite, elle a été sanctionnée. Mais comme souvent, les grosses équipes peuvent être sanctionnées par des plus petites.
Enfin, elle a été secouée quand même.
Et les deux derniers matchs, c'est un sens unique.
Le premier match de groupe en début d'une Coupe du Monde, c'est souvent un match où
le plus dangereux,
un peu le plus dur. Qu'il faut, souvent, les sélectionneurs disent que c'est le match qu'il ne faut pas perdre parce qu'on sait que les petites équipes sont hyper motivées, hyper concentrées et que y a les grosses écuries sont un peu plus diesel.
Mais sur le scénario du match, tu vois, l'Argentine, la première mi-temps, les Argentins, l'Arabie Saoudite, elle se fait rouler dessus. Tu vois, c'est un trou d'air. Mais, en fait,
sauf qu'ils ne concrétisent pas, il y a un petit doute, et puis il y a un appel d'air. C'est le foot, il y a peu de points, donc ça peut basculer vite dans un sens ou dans l'autre. La France a été menée par l'Australie aussi. Après, il y a la capacité à faire face et à se rebeller, mais c'est pas toujours aussi évident à dire qu'à faire.
Carlos, pour terminer, les Australiens ont-ils déjà peur de l'Argentine ? Doivent-ils avoir déjà peur de l'Argentine ?
Il va falloir qu'ils mettent 40 kangourous.
C'est l'une de leurs qualités, la mobilité quand même. Enfin, oui.
Je pense que l'Argentine, si elle joue comme elle doit jouer, même si on est toujours 11 contre 11, je ne vois pas que l'Australie peut le compliquer le match. Mais on ne sait jamais, vous savez, vous marquez un but, vous mettez derrière, vous commencez à envoyer le ballon à la tribune. Il y a des fois que...
Et ça sera la stratégie de l'Australie, c'est sûr.
Courant.
L'Australie, ils vont faire ce qu'ils ont fait sur les trois matchs. Ils vont vous mettre le feu sur les 20 premières minutes pour en marquer un et derrière, ils vont bétonner.
Carlos, il y a eu un pénalty. Vous aussi, vous l'avez trouvé très généreux, ce pénalty en faveur de l'Argentine.
Moi, je trouvais que les deux pénaltys, le pénalty aussi qu'ils ont donné contre l'Arabie Saoudite, il était généreux. Parce qu'un pénalty, comme il l'a sifflé contre l'Arabie Saoudite, on voit un tous les 10 minutes dans le football. Si vous vous rappelez le pénalty qu'ils ont donné.
Et là, le gardien...
Il n'y a pas eu pénalty. Le défenseur arabe, il prend par le maillot, par la ceinture, à Paredes. Mais ça passe dans tous les matchs. Mais les deux pénaltys ont été bizarres. Oui. Celui d'aujourd'hui, pour moi, il n'a pas pénalty.
Et d'ailleurs, il y a eu une leçon.
Vive réaction dans le bureau.
Oui, dans notre bureau. Et Chesney, était un plutôt bon gardien sur l'ensemble de la compétition.
C'est le meilleur gardien de la phase de poule, Chesney, tout simplement, qui a été monstrueux sur le deuxième match contre l'Arabie Saoudite, qui a encore été très bon, qui a retardé l'échéance, et même entre les deux buts, qui a encore fait des arrêts. Et je trouve que Chesney, c'est le meilleur gardien de la poule devant Unai Simon et Sommer.
Bon, du coup, l'Argentine évite l'équipe de France, Carlos, en huitième de finale.
Eh oui, évite ça. Et la France, elle a hérité de la Pologne. On va essayer que la Pologne attaque deux, trois fois dans le match.
Oui.
Et après, je pense qu'après, il faut voir le match qu'il peut faire Sénégal contre l'Angleterre. L'Angleterre, un jour, c'est Mig, autre jour, c'est... Figa, un jour, c'est Razin. Ouais. L'Angleterre, on ne sait pas tellement vraiment comment ils vont jouer. Ouais. C'est la réalité.
Et vous savez qu'ici, on
et
a le cœur
sénégalais. C'est une bonne équipe.
Oui, hein, elle est impressionnante. Hein. Merci beaucoup, Carlos, d'avoir été en direct avec nous. Nous, on veille ici à Paris, mais pour vous, vous avez le temps de fêter la victoire du côté de Buenos Aires.
Bien sûr. Et vous savez, je vais vous raconter quelque chose. 30 secondes.
Allez-y.
Je lis dans l'équipe aujourd'hui. Dans l'équipe, je lis une phrase. Cela ne marche presque jamais, mais peut-être aujourd'hui. C'était quand l'équipe de France, il a fait jouer la réserve, disons.
Ouais.
Dans l'équipe, ils ont marqué ça, que cela ne marche presque jamais. Mais aujourd'hui, peut-être. Mais aujourd'hui, il n'a pas marché,
ben
peut-être.
Non. Ça n'a pas marché.
Pas du tout, oui. On est d'accord. On est d'accord avec vous.
Très bien, à bientôt.
Merci beaucoup, Carlos. Hasta luego.
Salut à toute la table.
Ciao.
Merci. Le Mexique, c'était l'autre match en parallèle. Eh bien, le Mexique devait s'imposer et devait l'emporter avec 3 buts face à l'Arabie Saoudite.
Acaban venir los de Arabia Saudita, acá la tienen. Puede ser 2-1. Gol de Arabia. Se acabó la historia, señoras y señores. Gol de Arabia Saudita. México está fuera de la Copa del Mundo.
México. Alors, ici s'arrête l'histoire du Mexique. Le Mexique est hors de la Coupe du Monde. Mais Naïm Oniol, en fait, on avait déjà, c'était dans les dernières secondes du temps additionnel. Mmh. Et donc, finalement, les Mexicains ont passé pratiquement une deuxième mi-temps entière à essayer de marquer le troisième but.
Ouais, ouais, bien sûr.
Et malheureusement, ils n'ont pas réussi.
Le Mexique a eu un premier quart d'heure délicat où l'Arabie Saoudite a joué haute. Et puis, derrière, ils ont commencé à enchaîner. Ils ont marqué en deuxième mi-temps, parce qu'il y avait 0-0 à la mi-temps. Et la deuxième mi-temps a été un sens unique monstrueux. Il y a eu pléthore d'occasions, il y a eu des arrêts de la part du gardien saoudien, c'est absolument incroyable, des occasions ratées. Et ils se sont fait sanctionner dans les arrêts de jeu. Moi, je pense qu'ils ont eu un pied d'or à la fin du premier match contre la Pologne, où ils avaient dominé, où ils avaient fait preuve d'inefficacité, notamment le Napolitain Lozano, qui aurait été très décevant sur cette compétition. Et on ne va pas leur reprocher d'avoir perdu contre l'Argentine parce que ça va dans le sens de l'histoire. Mais le match d'aujourd'hui a été très mal négocié. Je pense que c'est une des équipes sur l'ensemble de la phase de poule qui a eu le plus d'occasions, qui a marqué le moins de buts.
David Ortolari, sur ce match-là, on a vu donc un Mexique à l'abordage hein, en permanence. Mmh. L'Arabie Saoudite essayait de contenir tout ça, n'essayant pas, Hervé Renard avait essayé de mobiliser ses troupes, ne réussissant pas à se qualifier. C'était à leur portée aussi, hein, l'Arabie Saoudite, grâce à cette victoire contre l'Argentine.
Oui, je parlais de groupe paradoxal, mais de résultats et de classements et de nombre de points parfois paradoxal par rapport au début de la compétition où on disait que c'était pas forcément toujours très révélateur. Il va y avoir beaucoup de frustration par plein d'équipes qui pouvaient accéder à.
Exactement.
L'Australie y accède alors que personne n'aurait vraiment conçu au départ que les Australiens finalement arrivent jusque-là.
Et que le Danemark soit dernier du groupe.
Aussi, bien sûr, Jean-Philippe, bien sûr. Et pour le Mexique, moi, j'ai toujours cette frustration parce qu'on a souvenir de Mexique quand même plus embêtant.
C'est une équipe mythique de la Coupe du Monde.
Voilà, plus brillante aussi par moments. On n'a pas retrouvé ça tellement cette fois.
Et d'un pays passionné.
Aussi.
Notre invité mexicain vendredi à Doha nous disait on attendait, ou l'ambassade du Mexique à Doha attendait 60 000 supporters.
Oui, mais on n'est pas surpris de la passion mexicaine autour
du foot.
Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut dire sur ce Mexique, c'est que le Mexique a fait partie des très rares équipes qui a eu le temps de se préparer pour ce mondial. Ils ont eu 4 à 5 semaines, ils ont fait plusieurs matchs amicaux. Tata Martino a eu une préparation un peu à la Aimé Jacquet en 98. Il a pris 30 mecs dans un camp de base, il les a fait bosser des matchs amicaux, puis il en a viré 5. Et dans les 30, ne figurait pas notre ami Santi Rodriguez, qui joue au Feyenoord, qui a fait une Ligue Europa absolument monstrueuse avec le Feyenoord. Alors, il ne l'a pas pris pour des raisons, on va dire, humaines, parce qu'il ne l'apprécie pas, parce qu'il estime que c'est un joueur qui soignait. Alors, il y a eu des histoires de gonzesses entre des matchs, machin, des soirées, des trucs nocturnes. Bon, la vie d'un footballeur classique. Moi, j'ai quand même tendance à penser qu'il a fait une énorme erreur en ne prenant pas ce joueur, puisque quand on est sélectionneur, on doit faire la meilleure équipe possible et pas la meilleure équipe de ses copains.
Alors ça, c'est un débat a sûrement concerné pratiquement toutes les sélections
du
monde.
Tous les
continents,
oui.
À mon sens, l'erreur, elle est surtout de la part du Mexique, elle est surtout de ne pas avoir essayé plus que ça et avant. Parce que là, finalement, ils se sont lancés à l'abordage dans le dernier match.
Mais non, avant... le match contre la Pologne, ils attaquent. Le match contre la Pologne, ils dominent. Et si c'était un match de boxe, le Mexique aurait gagné au point.
Le match contre l'Argentine, ils n'essayent rien du tout. Et oui, ils n'essayent rien. C'est pas, et c'est pas dans leur
mais
dans
est-ce, leur que, est-ce que tu peux, est-ce que tu peux, est-ce que tu peux reprocher au Mexique d'avoir eu peur de jouer l'Argentine qui avait perdu le premier match, qui devait attaquer à outrance?
Si on regarde dans le même groupe, dans le même groupe, l'attitude de l'Arabie Saoudite qui se sait plus faible
bien sûr,
que ses adversaires.
C'est justement parce qu'elle n'a rien à perdre qu'elle voilà. y était.
Et elle, ben oui, mais le Mexique aurait pu tenter quelque chose comme ça. Et finalement, ils se sont réveillés trop tard. Ça s'est joué à rien hein, parce que la qualification de la Pologne, elle est indigne sur ce qu'on a vu. Ouais. Finalement, sur le papier, que Argentine et Pologne passent en huitième, c'est assez logique. C'est ce qu'on aurait pu dire avant la Coupe du Monde. Quand on au vu ça. Des matchs, quand on voit les matchs, la Pologne, elle n'a pas sa place. Franchement, c'est... Enfin, ça aurait été plus juste que soit le Mexique ou l'Arabie Saoudite.
Je pense que le fait d'avoir une vraie préparation par rapport à 29 autres équipes et le fait d'être éliminé en poule, Tata Martino va le payer cher.
Oui, bon, mais en Amérique du Sud ou en Amérique latine, on sait que les sélectionneurs n'ont pas toujours une vie très
prolongée. Mais
parfois,
c'est justifié.
Parfois, effectivement. On continue, nous, parce qu'il y avait aussi d'autres matchs un peu avant, et notamment Tunisie-France.
Peut-être là dans l'axe, mais c'est pas assez compliqué. Il se met sur son pied gauche et ça va aller au fond. Ça va aller au fond, Wabi Kazri. Oh, c'est pas un but très esthétique, mais ça rentre et la Tunisie passe devant 1-0.
It's on for Matthew Leckie. Matthew Leckie cuts back inside. One way, then the other.
Les Tunisiens assis sur la pelouse, déçus. Énorme déception pour l'équipe de Tunisie.
Les Bleus et les Soqueiros qualifiés en huitième de finale. La victoire des Kangourous, donc ceux qui sautent, n'est-ce pas, David Lantolari, sur le Danemark a privé les Aigles de Carthage d'un huitième de finale. Les Tunisiens ont plutôt bien joué. Leur chance, crânement, aujourd'hui face aux Français. On va y venir à ces Français. En tout cas, ils ont remporté le match 1-0 avec un super but de Wabi Kazri qu'on connaît bien en France, notamment quand il a joué à Saint-Etienne. Maintenant, il est à Ajaccio. Wabi Kazri qui regrette d'avoir peu joué dans cette Coupe du Monde.
On a vraiment un bon groupe. On n'a pas été récompensé parce qu'on fait le maximum ce soir, mais on peut avoir des regrets sur le deuxième match. Maintenant, voilà, c'est le football. Quand tu ne fais pas tout bien, tu n'es pas souvent récompensé. Maintenant, je souhaite le meilleur à l'équipe de France parce que, voilà, en étant né là-bas, ils ont quand même des bons joueurs, des bons mecs. J'en connais pas mal. Et je leur souhaite vraiment d'aller au bout parce qu'ils le méritent.
Sportif et amical Wabi Kazri, victoire donc prestigieuse pour les Aigles tunisiens sur les champions du monde sortants, diront-ils. Alors c'était peut-être l'ombre ou les héritiers de ces champions du monde sortants. Un bon match, mais peut-être trop tard pour se qualifier, David Lortolari.
Oui, alors sur l'action du but, puisque c'est ça qui fait la différence à l'arrivée quand même, malgré des arrêts de jeu à rallonge, n'est-ce pas ?
Poussé du bout du pied.
Oui, y a deux façons de voir. La première, c'est de se dire, bon, Kazri, il fait son solo, un solo tel un musicien qui aurait du talent. Il fait son solo dans la défense et il pousse le ballon brillamment au fond des filets. On peut dire aussi... C'est un sacré égoïste sur ce coup-là. Alors, il y est allé parce qu'il y a cru, mais en face de lui, c'est tombé comme des mouches quand même. Je ne sais pas si...
Quand ça range, l'égoïsme, c'est bien. Hein.
Oui, non, mais voilà. Et il a eu le culot, le talent, le culot pour réussir cette action-là. Moi, sur ce match-là, on parlera des changements, on parlera de l'équipe B, C, D, de l'équipe de France. La Tunisie mérite sa victoire. Elle a souffert dans les tout derniers instants, au moment où Mbappé plus Griezmann plus quelques autres sont entrés.
Dembélé,
bien sûr, voilà. Évidemment, mais sinon, pour le reste, c'est mérité. Elle est allée la chercher. Il y a eu quelques occasions sympathiques, quelques mouvements sympathiques. Kazri, un beau symbole. Et effectivement, Annie, je me souviens de lui à Saint-Etienne.
Schrida, très bon joueur.
Parce que c'est le genre de joueur qui peut effectivement être tirer son équipe vers le haut avec une belle action. Il l'a réussi. Bravo à eux. C'est une victoire de prestige, je suis d'accord. Dommage derrière que ça n'ait pas suivi pour la qualif.
Oui,
ça ne se passait pas sur ce match-là, la preuve.
Exactement. Ils n'avaient plus leur destin en main. Et c'est sûrement ça aussi qui faisait que eh bien, l'Australie, de l'autre côté, on y viendra, s'est qualifié. En tout cas, des Bleus plutôt décevants. En tout cas, on va dire ça, c'est sûr, inexpérimentés. Ils avaient 9 changements au coup d'envoi. Une défaite sur un tournoi majeur qui met fin à 13 matchs sans perdre depuis la finale de 2016. Cette équipe, le jeune Kolo Muani a commenté la prestation de son groupe.
C'est un peu difficile quand on ne joue pas tous ensemble. On n'a pas beaucoup de temps de jeu malgré qu'on essaie de faire des matchs amicaux. Mais on essaie d'apprendre de jour en jour et de continuer à travailler. Après, c'était la première. Je pense que d'autres personnes avaient un peu peur. C'est une première de Coupe du Monde pour quelques-uns d'entre nous. Je pense que c'est un peu humain.
Ouais, Kolo Muani, donc, qui était dans cette équipe, qui faisait partie de tous les remplaçants. Jean-Philippe Bouchard, cette équipe de France remaniée. La grande question, c'est est-ce qu'il a eu raison, Didier Deschamps, d'envoyer un peu, j'emploierai pas le mot abattoir,
parce que
L214 va nous tomber dessus, mais est-ce que les coiffeurs ou les remplaçants des jeunes qui n'ont pratiquement, tout à l'heure, vous parliez de préparation pour d'autres équipes. Eux, ils n'avaient jamais joué ensemble. Sont-ils coupables ?
Il les a jetés dans le grand bain.
Ouais.
Et ben, c'est génial comme occasion pour eux. Ils ont mesuré ce que c'était le haut niveau, ce que c'était un troisième match de Coupe du Monde. Parce que la France ne jouait pas grand-chose. Mais la Tunisie, ils étaient l'abordage tout le temps. Et on l'a bien vu, la France n'a pas gagné un duel pendant 60 minutes. C'était,
il y aurait eu un but du Danemark dans l'autre match, ils étaient qualifiés.
C'était,
donc effectivement,
c'était pas un match amical ou la Ligue 1, là. C'était un match décisif de Coupe du Monde. Et là, ils ont mesuré la différence. Alors après, on peut pas de reproche à leur faire. Pour la plupart, ils étaient à moins de 10 sélections. Donc ils n'ont pas joué ensemble. C'est pas la même chose hein, de servir d'opposition à l'entraînement en faisant surtout bien attention de pas blesser les titulaires. On n'est pas dans les mêmes conditions. Donc là ils ont été jetés un peu violemment dans le grand bain, mais c'est le meilleur apprentissage pour eux en tout cas. Et de toute façon le choix de Deschamps était clair. Il fallait faire reposer les titulaires parce que là on va voir la Pologne a livré un match très éprouvant quand même pour elle. Dans 4 jours, les titulaires français, ils seront frais. Donc, ils ont gardé un peu. Enfin, voilà, le choix, il est. Ce que Carlos disait tout à l'heure, là, en citant Vincent Duluc de l'équipe, c'est que ce que disait Vincent, c'est que, effectivement, ce troisième match, quand la France est déjà qualifiée, c'est toujours nul. c'est toujours.
Avec Deschamps notamment, voilà, jamais il n'a été gagné. Pas forcément perdu, mais jamais gagné.
Mais même avant.
Oui, on se souvient de la France-Danemark à la dernière.
Quand on fait jouer les remplaçants, c'est pas bon. Mais là, il faut se souvenir de l'avalanche de forfaits qui a précédé la Coupe du Monde. C'est les remplaçants, des remplaçants, des remplaçants. Mais forcément, ils n'ont pas le niveau. C'est normal.
Le truc, c'est pas que Deschamps ait fait tourner, parce que ça, à la rigueur, c'est stratégique et très bien, pas de souci. Mais j'ai quand même un peu de mal avec la notion de remplaçant, des remplaçants, des remplaçants, ou de coiffeur. Dissasi joue à Monaco, Konaté il est à Liverpool, Kamavinga il joue au Real Madrid, Coman il joue au Bayern Munich, Kolo Muani, non, je parle pas de Kamavinga.
Il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui étaient à leur poste non plus, on voit même.
Qui ça? Dissasi joue à droite à Monaco ou à Reims. Il n'y a que Kamavinga qui n'était pas réellement
attendez,
à son poste.
Attendez, le Marseillais Guendouzi.
Guendouzi à l'OM, il est utilisé devant.
Ligue des Champions.
Il ne faut pas à un moment donné essayer de minimiser l'énormité de ce qu'on a vu tout à l'heure. L'équipe de France a été nulle, mais nulle pendant 60-65 minutes. Elle n'a pas perdu un. Elle n'a pas gagné un duel, elle ne s'est quasiment pas procurée d'occasion. La Tunisie a très bien joué. Laïdouni, Kechrida ont fait un super match. Mais j'ai vu des comportements absolument scandaleux. Veretout, Guendouzi, ça n'a pas le niveau équipe de France. Konaté, alors j'apprends que la grande majorité des médias l'encensent parce que comme il a un tour de cuisse, comme des roues de camion, on dit « Ah bah ouais, il est fort !» Sauf qu'il a rendu tous les ballons à l'adversaire. Bon. Et ça avait été déjà le cas au premier match. Je trouve que la prestation était indigne de l'équipe de France. Le problème, on a perdu, on est déjà qualifié, ça ne change rien, les premiers, très bien. Sauf que si parmi les titulaires qu'on a vus sur les deux premiers matchs, on a un blessé, on a un suspendu, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on fait rentrer qui ? J'ai entendu des gens essayer de créer des débats entre Dembélé et Coman. C'est une plaisanterie ? On fait jouer qui si on a un blessé?
Vous
ne
vous mettez pas trop en colère, Naïm.
Je ne me mets pas en colère.
C'est pas encore le cas.
J'interroge simplement.
Et peut-être qu'il y en a un qui rentrera dans un collectif de 11 et que si on en fait rentrer un, ça ne sera peut-être pas là comme là où il y a eu 9
changements. Exactement. Si celui qui rentrera hypothétiquement en cas de blessure, il aura cette expérience-là, il aura un peu de pression et il ne se verra pas trop beau. Parce que là... Tu veux jouer, mon gars? Voilà ce que ça donne.
Tu fais rentrer Konaté en huitième de finale.
On a beaucoup d'équipes.
Oui, je sais. Il va rendre le ballon à Kazri. C'est une chose. S'il le rend à Lewandowski, il y a des chances que ça fasse but.
D'accord, mais il est bon. On y veillera, Naïm.
Oui, ça viendra.
Et vous serez là.
Peut-être.
Oui. Je serai là.
Vous serez
dimanche,
là.
Je serai là.
Je sais. Vous serez aux commentaires ici en studio. David Lortolari, est-ce que ça salit un peu l'image d'une équipe qui ambitionne de défendre son titre jusqu'au bout?
Il y a très peu d'équipes qu'on puisse concevoir être capable de remplacer 4, 5, 6, 7, 8, 9 joueurs et garder une cohérence, garder un niveau. Peut-être le Real. Peut-être Manchester City, à peine. Dès que vous enlevez 3-4 joueurs
encore,
dans une équipe comme le...
Cela s'entraîne tous les jours, toute l'année ensemble.
Voilà. Mais c'est ça. Et là, de ce côté-là, je suis d'accord. Deschamps ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il y ait le même impact, la même fluidité, le même talent, la même qualité en remplaçant 6, 7, 8 ou 9 joueurs. Ça n'existe pas, sauf dans quelques équipes de clubs. Ce qui est un peu inquiétant à Nice quand même. C'est la différence de niveau.
Oui, sauf qu'on peut se dire, enfin là j'interviens avant de passer à autre chose, mais en se disant quand même dans l'équipe A, déjà il y a énormément de blessés, donc on peut imaginer que les meilleurs de l'équipe A' sont déjà en équipe A et donc on a une équipe vraiment B quoi,
oui.
Derrière. Mais ça c'est une interrogation. En tout cas, il y a eu quand même un fait de jeu et on va s'y arrêter quelques instants. Un but d'égalisation inscrit par Antoine Griezmann.
Non, l'arbitre finalement renvoie la caméra qui était rentrée et il a l'air d'avoir sifflé un petit peu trop vite. Il va aller vérifier. Peut-être l'espoir d'une victoire peut renaître du côté de la Tunisie. En tout cas, l'arbitre revient, Thomas, sur la pelouse. Il va annoncer sa décision.
Alors,
vérification vidéo.
Il annule le but
pour la plus grande joie des supporters tunisiens, pour hors-jeu, le hors-jeu de Griezmann. Et la Tunisie reste devant dans cette partie pour les dernières secondes.
Voilà le but donc qu'on a cru marquer et qui pourrait apporter égalisation. Eh bien non, il était annulé et cela pose beaucoup de questions à Didier Deschamps.
On a égalisé, ça n'a pas été validé. Même si j'ai un petit doute quand même. S'il siffle le coup d'envoi, la remise en jeu et qu'il va voir la VAR, il a le droit. Mais s'il siffle le coup d'envoi comme il a fait et la fin du match, je ne pense pas qu'il ait le droit. Mais bon, après le hors-jeu, bon, c'est un deuxième ballon. Donc sans doute que les gens qui l'ont alerté estiment que c'est dans les lois du jeu.
Alors, c'est dans les lois du jeu. Évidemment, depuis le coup de sifflet final, ça discute beaucoup un peu partout sur les plateaux de télé. Nos confrères, tout le monde, on appelle des arbitres et tout. Résultat, il semblerait que le but n'aurait pas pu être arrêté, être remis en cause et la VAR, une fois qu'il avait remis en jeu le ballon et que l'arbitre avait accepté. En plus, il a sifflé la fin du match dans la seconde. Ça vous paraît complètement incohérent. Alors, ajoutons-le, c'était un arbitre néo-zélandais, c'est-à-dire c'est pas... sans lui manquer de respect, mais des grandes nations qui...
Il a moins l'habitude des grands rendez-vous.
Voilà, des ligues des champions ou quelque chose comme ça. Jean-Philippe.
Ou alors parce que c'est le rugby, il n'y a pas de hors-jeu.
Il y a en avant, peut-être.
Peut-être. Ils sont bien meilleurs que nous dans ce domaine.
En fait, là, c'est vraiment la VAR ou pas VAR sur ce but. C'est vraiment c'est l'interprétation de l'arbitre. C'est est-ce que Griezmann fait action de jeu au moment où il reçoit...
Mais il y a ça. Mais est-ce qu'il avait le droit d'être interpellé par la VAR alors que la fin du match avait été sifflée?
Non.
En l'occurrence, pour le coup, si le match est fini, il est fini. Donc, on entérine le résultat. Après, la VAR, on sait bien que ça prend toujours un peu de temps. Donc,
oui, mais en l'occurrence, s'il a sifflé,
c'est qu'il avait pris sa décision.
Le seul cas de figure où tu peux interroger la VAR après le coup de sifflet final, c'est en cas de bagarre, d'insulte, de débordement. Voilà. Sur le jeu à proprement parler, à partir du moment où il siffle l'engagement ou la fin du match, il ne peut pas revenir sur le but. Mais on a déjà vu ça, c'était dans Ligue des Champions. Un Borussia Dortmund FC Séville, je l'avais fait en direct ici. Haaland marque un but, le jeu reprend, l'arbitre siffle, annule le but et accorde un pénalty à Dortmund pour une faute qui avait eu lieu 5 minutes avant. C'était absolument ridicule. Donc on a déjà vu ça, ce qui était une erreur d'arbitrage déjà à l'époque. Ça en est une aussi aujourd'hui. Mais au-delà de ça, quand on parle du hors-jeu de Griezmann, moi je veux bien, mais si on, je croyais que ces derniers temps, on avait décidé que quand un joueur était en hors-jeu de position et qu'il ne faisait pas action de jeu, on ne sifflait plus. Il ne fait pas action de jeu puisqu'il n'est pas au duel. Et qu'à partir du moment où le ballon lui est remis de la tête par le défenseur de la Pologne, de la Tunisie, excusez-moi, il est remis en jeu.
Je suis absolument pas d'accord avec cette interprétation.
Mais, non, mais c'est pas une interprétation,
oui,
c'est la règle.
Mais oui, mais sauf que c'est une interprétation parce que pour moi, il fait action de jeu à partir du moment où il est en attaque.
Mais il touche pas le ballon.
Il est dans le jeu, il finit par marquer le but. Donc il est forcément actif.
Mais il est pas actif, il court pas. Non, il fait pas action, il touche pas le ballon.
Il est présent.
En fait, plus exactement, il arrête son action. C'est-à-dire qu'il lance sa course au moment de la passe, il l'arrête quand il voit qu'il n'aura pas le ballon, et la balle lui revient. Voilà, c'est ça qui se passe.
Donc, en fait, il
y a action de jeu interrompue. Donc l'arbitre interprète.
On a vu des enjeux de position où, par exemple, il y a une frappe, le joueur passe devant le gardien, là, ne touche pas le ballon, mais gêne la vue du gardien. Là, je veux bien.
On a déjà vu des buts pour ça.
Mais il n'est pas au duel. Et en plus, le ballon lui est remis par un Tunisien. Ce n'est pas mon interprétation, c'est le règlement. Ce n'est pas moi qui ai fait le règlement, quand même.
Une dernière question sera pour vous, David Lortolari. Est-ce qu'on peut imaginer que le score puisse être changé par une commission d'arbitrage de la Coupe du Monde?
Et alors, je comprends qu'il soit changé après le coup d'envoi, après le but, ou après que le match soit arrêté.
Maintenant, là, ce soir, demain, qu'on change et qu'on remette 1-1.
Non. On peut imaginer, parce que la VAR, comme disait Jean-Philippe, continue de travailler alors que l'arbitre est dans son propre rythme. Mmh. Donc derrière, étant donné que la VAR aujourd'hui est toute puissante, elle revient par son pouvoir suprême sur l'action. Ça, d'accord, dans les minutes qui suivent, mais deux jours après, non.
Ok. Les Tunisiens, en tout cas, bien déçus, éliminés, ils n'avaient plus leur destin en main. Allez, on continue et on fait un petit clin d'œil à l'Australie. On l'a vu sur les réseaux sociaux, une ambiance de folie à Sydney, à Melbourne, après le but, après la fin de la partie surtout, et après cette qualification, l'Australie n'a pas disputé de huitième de finale en Coupe du Monde depuis 2006. Le buteur, c'est Matthew Lecky, et les Kangourous se retrouveront donc face à l'Argentine. Les Danois, décevants, ces Vikings, on les avait sans doute cru plus beaux qu'ils n'étaient, ils terminent dernier de leur groupe. Ce sera donc France-Pologne dimanche à 15h en temps universel. Et puis Australie-Argentine.
Tout à fait.
Ça sera, je pense, samedi.
20h. Dimanche 20h.
Dimanche 20h.
Non, dimanche 20h, c'est le Sénégal.
C'est pas le même jour.
C'est le Sénégal. C'est pas le même jour. Il me semble que c'est samedi, mais bon, excusez-moi, j'ai mal noté.
Ah oui, non, si, parce que là, après, comme on va jouer le vainqueur de Sénégal-Angleterre, ça sera le même jour. Oui, d'accord, donc c'est l'autre moitié de tableau, là.
Ça se passe un autre jour.
C'est ça.
En tout cas, demain, qui continuera, qui restera à la maison? Il nous reste 10 minutes pour en parler.
Der Freiburger und frühere Bielefelder den Treffer erzielt. Jetzt sitzt sie schon wieder im Strafraum und schon wieder wird es gefährlich. Und Tor für Japan! Tor durch Asano! Der setzt sich da durch.
Le but! C'est 0-2! Avec le but qui est marqué, me semble-t-il, par Abdallah. C'est terminé pour la Belgique. 0-2. Ah, franchement.
La puissante nationale Mannschaft continuera-t-elle l'aventure dans cette compétition? Rappelons-le, elle l'a gagné en 2014 et elle a quitté très 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 tôt la Russie en 2018. Alors après la défaite face au Japon, l'équipe d'Hansi Flick va-t-elle relever la tête? Elle l'a déjà fait face à l'Espagne. Écoutons Hansi Flick.
Évidemment, la qualification n'est plus entièrement entre nos mains. Nous n'avons pas joué notre premier match de la manière la plus convaincante pour qu'elle le soit. Maintenant, vous me demandez si nous avons la pression. Vous savez, être dans la situation de jouer une Coupe du Monde, c'est déjà juste magnifique. Et bien sûr, nous nous sommes donné le droit de batailler pour un billet en huitième. C'est pour cela que nous sommes venus. Nous allons jouer ce match à fond, mettre une grande intensité, nous verrons ce qu'il se passe ensuite.
Bon, il dit qu'ils n'ont pas trop la pression, mais je crois que c'est quand même le contraire, non, David Lortolari?
Oui, factuellement, il y a le mauvais souvenir de 2018, il y a un début de compétition où on se fait piéger, et quand je dis on, c'est pas moi, hein. Je dis bien on, le vrai on, là, en l'occurrence, on se fait piéger quand on est ce pays qui vient avec la certitude de ses forces offensives, en théorie, et derrière, il y a quelque chose qui fait parler sans arrêt en ce moment. Vous basculez dans le bon sens du scénario de la compétition, peut-être, parce que vous faites entrer dans le dernier quart d'heure, Annie, le numéro 9 qui a toujours fait la gloire de la Mannschaft. Ça peut être Rummenigge, ça peut être Hoeneß, ça peut être Gerd Müller, ça peut être qui
vous voulez. Et que des sélectionneurs cherchent depuis des années.
Et donc, grosse pression sur sélectionneurs. Grosse pression sur sélectionneurs médiatiques et populaires pour l'instant, pour que non seulement cet attaquant de 29 ans sympathique, Niklas Füllkrug, soit titulaire d'entrée contre le Costa Rica pour pouvoir agréger la défense costaricienne et qu'autour de lui, les vedettes circulent. Et en plus, Thomas Müller derrière lui, parce que les deux étaient en conférence de presse hier, ils s'entendent très bien, ça faisait des blagues, ça s'amusait, c'était l'humour. On a l'impression que ce Füllkrug est en train d'agréger toutes les pensées et que c'est lui.
Aussi.
Oui, c'est lui qui est peut-être la clé du tournoi, au moins pour accéder à un huitième et plus si affinité. Et c'est la belle histoire du moment.
Ça veut dire qu'en fait, si je comprends bien, le futur de l'Allemagne de la Coupe du Monde passe par Füllkrug devant et Thilo Kehrer derrière.
Kehrer, je sais pas.
Ça fait peur.
Je le sens un peu moqueur, Naïmoniol.
Pas grand-chose. Hein,
mais Naïmoniol, le problème, oui, c'est que cette Allemagne, elle n'a qu'un point. En parallèle, on aura un autre match Espagne-Japon.
C'est mieux que zéro, Annie.
Et oui, mais oui, l'Allemagne n'a plus vraiment son destin en main.
Non, bah non. Après, il lui importe de battre le Costa Rica, c'est quand même à sa portée.
Bah, ça a été à la portée de l'Espagne,
et,
en tout cas.
Mais ça ne résoudra pas son problème, c'est une sélection en fin de cycle. Et ce qui est très ennuyeux, c'est que c'est déjà arrivé. Ça arrive à toutes les nations. C'est déjà arrivé dans l'histoire, en 2000 notamment, à l'Euro, où voilà, ils sont allés jusqu'au bout du bout des vieux grognards. Et il y avait un rendez-vous qui était la Coupe du Monde 2006 qu'ils organisaient derrière. Ils ont pu faire table rase, Klinsmann est arrivé. Enfin bon, ils ont tout renouvelé. Là, ils n'auront pas le temps. L'Euro, il est dans un an et demi. Donc, en fait, c'est très, très important pour eux de s'en sortir avec les honneurs. Voilà. D'aller, je ne suis pas sûr qu'ils puissent aller
Et Füllkrug, il vous plaît, vous?
Là, c'est le diable qui sort de sa boîte, là, un peu, franchement. C'est les dents du bonheur, tout ce qu'on veut. Voilà, c'est super, il y a des histoires. Bon, mais c'est le petit bout de l'histoire. Si l'Allemagne sort par la petite porte parce qu'elle n'est pas capable de battre le Costa Rica, Füllkrug ou pas, il y aura.
J'ai une question pour David, je ne sais pas si on en parle en Allemagne. Si d'aventure l'Allemagne est éliminée, est-ce qu'Hansi Flick dégage?
Non. Il est sûr d'être là jusqu'en 2024.
Voilà.
D'accord. Pourquoi?
Parce que l'Euro.
Parce que c'est le non, c'est le contrat.
Ouais, c'est le contrat. C'est le deal.
C'est pas le contrat écrit. Hein. Non, mais c'est le contrat.
C'est le deal. Quoi.
C'est l'engagement. Voilà.
Le gentleman agreement.
Voilà. C'est.
Non, mais on pique.
Mais ça va faire du bruit. Ça, on est bien d'accord.
On pique pas l'entraîneur du Bayern sans assurer les arrières et enfin voilà, c'était le deal.
C'est quand même une. Ça rentre dans une dynamique parce qu'il y a l'élimination en poule en 2018. Il y a un très mauvais Euro 2020, hein, faut pas se mentir. Oui. Il y a jusqu'à présent une Coupe du Monde en demi-teinte. Et le truc, c'est qu'à une époque, l'Allemagne, ça lui est arrivé d'être en difficulté sur certaines compétitions, mais elle avait quand même des joueurs extraordinaires qui venaient par la suite. Moi, j'ai du mal à voir, et pourtant je regarde quand même d'un œil avisé la Bundesliga, j'ai du mal à voir la nouvelle génération. On me parle beaucoup de Schlotterbeck, de Klostermann, de Musiala. Bon, Thilo Kehrer, j'en parle pas parce que normalement il ne doit même pas être là. Mais j'ai du mal à voir ces jeunes-là, Moukoko, 17 piges. Est-ce que dans une Allemagne forte, puissante, comme on la connaît historiquement, est-ce qu'un garçon comme Moukoko, aussi talentueux soit-il, je parle même d'Adeyemi, aussi talentueux soit-il, est-ce que ces garçons-là devraient être là? Je ne crois pas, Füllkrug ne devrait même pas être là. C'est un garçon qui a une trajectoire un peu comme on a connu Ricky Lambert en Angleterre.
Oui, il est là parce que c'est par Werner est absent.
Qui est passé par voilà. C'est presque un peu un Giroud.
Non. Giroud a une vraie carrière en première division dans plusieurs championnats et ainsi de suite.
Il est allé la chercher sa sélection.
Füllkrug, c'est un type qui oui, mais il est arrivé à Montpellier, il avait 23 ans, Giroud.
Hein. David, pour répondre parce que le temps passe.
Oui, mais on peut faire vite. Effectivement, ça ouvre un débat large qu'il faudra garder à l'esprit, c'est que la Bundesliga aujourd'hui est un championnat en dessous de la première ligue vers laquelle ses talents précoces de Bundesliga vont ensuite. Mm-hmm. Jadon Sancho en est un exemple évidemment parmi d'autres. C'est aujourd'hui un championnat de jeunes talents. fabuleux pour certains. Florian Wirtz, par exemple, de Leverkusen, est un joueur merveilleux. Kaya Wertz aussi. Et peut-être c'est le moment aujourd'hui de s'affirmer, de passer un palier.
Ça fait des années que je dis que le Bayern Munich est champion tous les ans depuis 10 ans. C'est un problème pour l'Allemagne. Ça se ressent depuis 3-4 compétitions maintenant.
Mmh. Alors terminons avec les Diables Rouges. Après la claque reçue par le Maroc, les Belges doivent l'emporter pour continuer et ce sera contre la Croatie. Cette sélection... Est-ce qu'elle est dans le doute, Jean-Philippe Bouchard? Parce qu'on a entendu Kevin De Bruyne, il doit y avoir beaucoup de discussions autour, et en tout cas on le voit, les railleries sur les réseaux sociaux, Kevin De Bruyne dire en gros, on est trop vieux.
On est trop vieux, on ne s'entend pas, en gros, c'est ce qu'il dit, et puis ça se voit sur le terrain. Donc là, on est quand même pareil, un peu comme l'Allemagne, on est un peu au bout d'une génération, quoi. On a l'impression que... On a pris les mêmes, on recommence avec les mêmes jusqu'au bout du bout. Et alors, ça peut passer, hein, parce qu'il reste...
Alors, eux, ils ont leur destin en main.
Voilà, il reste beaucoup de talent. Hein, c'est une très belle équipe.
Mais on va se retrouver entre deux équipes un peu de grognards, parce que du côté de la Croatie aussi.
Bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Quand on est finaliste de la Coupe du Monde ou demi-finaliste pour l'Allemagne, pour la Belgique, on change tout? Peut-être pas, quand on a des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs.
Est-ce que aujourd'hui, le fait qu'un garçon comme Eden Hazard, qui n'est plus footballeur depuis 3 ans, se retrouve titulaire et capitaine dans une équipe comme la Belgique, est-ce que ce n'est pas ça le signe parfait que cette équipe va mal?
Sans doute. Simplement, Bernard Lama disait, il y a des logiques de sélection. On n'y peut rien, on sait que ça va aller dans le mur, mais c'est comme ça.
Mais il y a aussi beaucoup de mecs qui disent que les sélections sont au-dessus des joueurs.
Mais voilà. On se souvient, par exemple, je pense que celle de Joachim Löw en 2018, quand elle va en Allemagne, il le sentait sans doute, le sélectionneur. Ce que vous dites, Jean-Philippe, c'est-à-dire, c'est pas la meilleure, mais de toute façon, je ne peux pas les éliminer parce que c'est les champions du monde de 2014. Mmh. Et il y a des sélectionneurs qui sont un peu prisonniers de ça. Je pense que l'Espagne pareil, en 2014, quand elle arrive.
Dans la plupart des grands pays de football, je sais pas, un peu pour se débattre là-dessus, mais en général, il faut deux phases finales à rater pour qu'on se décide à changer les choses. Une, ça suffit pas. Voilà. Pour la France, il a fallu 2008 et 2010 pour qu'on se décide à changer les choses. Mais sinon, on reste quand même sur la lancée. Et voilà, donc là, en tout cas, dans ce groupe-là, il y aura forcément un échec sur les trois grosses nations.
David Lortolari.
Plus d'énergie, malgré tout, je trouve, côté croate, avec quelques joueurs qui ont plus d'étincelles actuellement, comme Kramaric, par exemple.
Les Croates, on peut être déçus qu'ils aient fait match nul contre le Maroc parce qu'on s'attendait à ce qu'ils gagnent. Mais les Croates, c'est une très belle équipe. Ouais, Kovacic, Kovacic fait une super Coupe du Monde. Kramaric, et alors, le défenseur, la paire de centraux, Lovren Gvardiol. Excusez-moi, très grosse charnière centrale. Et je pense que face à eux, ils les ont déjà joués. Il y a eu Saïs à garde avec le Maroc, très bonne charnière centrale. Mais le Maroc, ils ont du talent sur toutes les lignes. Parce qu'en France, on a un prisme Real Madrid qui consiste à dire Modric est vieux, la Croatie est vieille. Sauf qu'autour de Modric, il y a 10 mecs, 15 ou 16 si on compte sur le banc de touche. Et ces mecs-là n'ont pas 35 ans et ils sont très bons. Donc il ne faut pas les prendre à la légère, les Croates.
Bon, donc dans ce groupe, Croatie, Maroc, Belgique, Canada. Alors, Canada déjà éliminé. Jean-Philippe, qui passera? Le Maroc?
Le Maroc est très bien parti.
Ils vont jouer le Canada qui est déjà éliminé en plus.
On le souhaite. Et après, moi, je remettrais quand même une pièce sur la Belgique.
Vous osez.
Au forceps, quoi. Allez, à la volonté.
Maroc-Croatie.
Et Jean-Philippe et David Lortolari.
Oui, Maroc-Croatie, il y a un but d'écart en faveur des Croates actuellement, au moment où on parle. Est-ce qu'avec les tout petits détails qu'il y a parfois dans cette Coupe du Monde, ça ne jouera pas, on verra. Mais Croatie et Maroc sont pour moi plus forts, dans ce groupe en tout cas.
Réponse demain soir dans Radio Foot International, même heure, même fréquence, on vous donne rendez-vous. Merci messieurs,
et merci
à tous d'avoir été fidèles au poste. On vous dit à demain.